consonance. De la page à la voix.
Porte-plume.
Lecture libre. Consonance. Une drôle d'histoire. Un texte de Thibaut Dubreuil sur une lecture de l'auteur. C'est vraiment une drôle d'histoire. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête alors que je voyais les deux journalistes disparaître sur le chemin. Quand ils étaient arrivés, mon chien piaffait d'impatience. Il adore quand on part en promenade dans la montagne, car il sait que je ne lui mettrai pas sa laisse. Il avait été accueillant avec ce duo de journalistes qui s'était aventuré jusque chez moi. Lui, d'habitude si craintif, était venu leur faire la fête. Il les avait entendus arriver bien avant moi. Et lui aussi, il l'a entendu, cette drôle d'histoire. L'homme et la femme étaient apparus vers 10h du matin, en haut du chemin qui mène à cette cabane dans laquelle je vis à présent. J'ai tout lâché de la ville, ses embouteillages et sa vie culturelle, ses manifs et sa pollution, son aspect minéral surtout, pour venir m'installer dans le vert et le marron de ce coin du Massif central. Vert, marron et blanc aussi, zone blanche, comme on dit. Les portables ne passent que près de la rivière, à côté du saule. De chez moi, on capte mal. C'est pour ça qu'après m'avoir salué, ils avaient ri, en me disant que vraiment, j'étais difficile à trouver. Ma cabane possède le minimum, je vis de rien et le courrier postal est le seul réseau qui me relie encore au monde. Je faillis leur répondre que les annuaires existent encore tout de même, avant de constater ma bêtise. Il faut une ligne fixe pour être inscrit dans l'annuaire. Et les lignes fixes n'existent plus. C'est par un jeu de hasard et d'appels lancés sur les ondes radiophoniques qu'ils avaient fini par me mettre la main dessus. Ils avaient des questions à me poser et m'avaient demandé quelques minutes de mon temps. Quelques minutes seulement, qui devinrent 2 heures de causerie. Vous êtes bien l'écrivain. On a mis des semaines à vous trouver, et on ne voudrait pas vous faire perdre votre temps. Ils étaient courtois, et mis comme des gens de Paris. Ils avaient pris soin de ne pas faire couleur locale en chaussant des bottes, et je voyais bien à leurs chaussures salies que les pluies des derniers jours les avaient obligés à patauger dans la boue. Ils avaient laissé leur voiture plus haut, sur cette placette à l'asphalte usé qui permet tout juste de faire demi-tour. La route se termine ici. Auteur, rectifiai-je. Je suis auteur. Je ne me suis jamais considéré comme un écrivain. Ce furent la curiosité et la distraction qu'ils me procuraient. Je ne reçois que rarement de la visite, qui me poussèrent à les inviter à s'installer sous la tonnelle. On voyait les raies de pluie s'enfuir au loin et le soleil tapait dur déjà en cette mi-juin. L'intérêt très relatif, ou même la flatterie que le mot « écrivain » avait suscité chez moi, portait peu. Mais comment pouvait-il savoir que j'avais écrit une dizaine de romans et autres recueils de nouvelles, alors que ces pauvres textes, bien fichus certes, mais qui n'avaient jamais rien cassé, s'étaient surtout vendus dans le cercle amical et à quelques dizaines d'exemplaires seulement. Il y avait bien eu un article dans un journal local des années auparavant, mais le journaliste s'était surtout concentré sur l'éditeur, un ami à moi, que j'ai perdu de vue depuis longtemps, et qui venait juste de monter sa maison d'édition dans le village où il habitait. Mon premier roman, apparaissait sur la photo de l'article, on me citait dans le papier. Tout ça avait dû être lu par une poignée d'abonnés à ce canard local qui, je crois, a disparu, lui aussi. Personne d'autre n'avait jamais rien dit ni écrit là-dessus. Je n'avais pas monté de site internet pour vanter mes livres, aucun éditeur ne s'était jamais intéressé à ce que j'écrivais. J'avais bien tenté d'envoyer des manuscrits, mais on me répondait rarement, ou alors des lettres type, sans intérêt. Trois fois, je fus invité, grâce à la persévérance de mon ami éditeur, dans un salon du livre, où je vendis quelques exemplaires. Le plus souvent, à d'autres écrivains qui m'achetaient un roman parce que j'avais acheté le leur. Dans mon esprit, mes livres devaient à présent se tenir oubliés quelque part dans une bibliothèque, une boîte à bouquins sur une place de village, ou plus sûrement au recyclage. Une fois revenu de la cuisine, avec un pot de café, et passé les formules de politesse et mon Dieu que c'est calme ici, je m'hasardais à les questionner sur leur présence. Ils n'étaient pas éditeurs, mais bien journalistes. J'avais cessé d'écrire depuis 15 ans et n'avais pas l'intention de reprendre la plume. Je ne pensais pas avoir reçu un prix littéraire, même par hasard, et qu'on viendrait me décerner avec 10 ans de retard parce que personne ne savait où j'étais. Que venait-il donc faire là ? C'est à propos d'un de vos livres. Le jour où je suis né, je ne fus pas la dernière à crier. Vous en êtes bien l'auteur. Je faillis m'étrangler. J'avais écrit ce texte plus de 20 ans auparavant. J'en avais même oublié le titre exact, pensant qu'à la place de crier, j'avais écrit pleurer. Et voilà que ces deux personnes me ramenaient à une époque si lointaine que ça me fit frissonner. J'ai horreur de me pencher sur mon passé. J'étais venu m'installer ici pour être au contact de l'essentiel. Je ne lis plus, n'écoute que le chant des oiseaux, me couche avec les poules et vis de rien. Cette déclaration me brassa un peu, comme on dit par ici. Oui, c'est étrange ce que vous me dites là. Ils rirent à ma remarque et me précisèrent que j'étais dans tous les médias. Devant ma mine douteuse qui faillit me faire rembarrer ces deux-là, ils sortirent de leur sacoche des journaux nationaux. Certes, je ne faisais pas la une, mais dans les cahiers littéraires, on parlait de cette fantastique aventure de mon roman, le jour où je suis né, je ne fus pas la dernière à crier. Votre éditeur est introuvable lui aussi. Il vit en Bolivie, dans une tribu indienne, paraît-il. Rien de ses activités d'éditeur n'a été retrouvé. Pourtant, les textes qu'il a sortis ont tous été déposés. Une quarantaine de mémoires. Mais aucune trace de votre roman. Sans doute a-t-il oublié de le faire. Ce fut une véritable enquête policière pour arriver jusqu'à vous. L'homme n'était pas peu fier de son coup. C'était grâce à son réseau et à pas mal de chance aussi qu'il était parvenu à me retrouver. Plusieurs journalistes, et pas seulement littéraires, étaient sur ma trace. Il fallait que je m'attende à de la visite. Mais que voulez-vous savoir ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Balançais-je, un rien agacé et amusé aussi, alors que je feuilletais un exemplaire de Libé qu'ils avaient posé sur la table. Dans la partie consacrée au livre, je trouvais une interview de la ministre afghane de la Culture qui était venue en visite officielle en France. Je découvris avec soulagement que la situation de ce pays si meurtri par les guerres était enfin stabilisée et qu'une fragile démocratie s'était mise en place. La ministre parlait des droits des femmes enfin reconnus, de la possibilité pour les filles d'étudier librement. Les écoles n'étaient pas mixtes, mais le progrès était visible partout et commençait à infuser dans les campagnes. « C'est la seconde partie qui nous intéresse », lança la femme, en pointant du doigt la page de droite, dont le titre sonnait comme un film d'aventure, « À la recherche de l'auteur perdu ». Avant que je ne commence ma lecture, la femme me donna quelques précisions. Elle travaillait pour un autre journal qui avait uni ses forces à Libé pour me retrouver. Elle bossait comme critique littéraire. Je me plongeais alors dans la lecture. Il n'y avait que quelques paragraphes, mais ils étaient écrits comme une forme de reconnaissance vis-à-vis de mon roman au titre à rallonge. Je pris mon temps et relis même l'article alors que les deux journalistes buvaient leur café. Je les sentais jubilés à mes côtés. Une fois cette seconde lecture achevée, je me dirigeai vers ma maison et revins avec un exemplaire du roman que je posai sur la table, comme j'aurais déposé un cendrier. Mes deux interlocuteurs se tapèrent dans les mains et se saisirent du livre avec la dévotion du croyant un texte sacré. C'est surprenant, n'est-ce pas? Autant cet article que le fait que j'ai pu conserver un exemplaire du jour où je suis né. Moi, je ne me suis jamais résolu à acheter mes livres. Ce sont les seuls ouvrages de ma bibliothèque à présent, et je les ai jamais relus. Je les garde en réserve. Mes héritiers en feront bien ce qu'ils voudront. Et je suppose que vous voulez connaître toute l'histoire. Je n'attendis pas leur réponse. L'homme avait déjà sorti son portable en mode enregistrement, la femme fit de même. Il s'agissait de doubler ma voix. Il ne fallait pas que leur quête si compliquée en vienne à rater pour un problème de technique. Alors voilà, Jean, mon éditeur, avait déjà sorti deux livres de moi, un roman et un recueil de nouvelles. Il avait monté sa maison d'édition parce qu'il en avait marre de ne recevoir que des refus. Vous connaissez le monde de l'édition, hein. Si t'es pas connu, pas bancable, sans réseau, t'intéresses personne. Ou alors, il faut être l'écrivain de la décennie, ce que nous n'étions pas, ni lui ni moi. Il connaissait le marché, Jean. Il savait bien que tous ses textes finiraient à la corbeille, alors il a monté sa boîte. Pour garder une trace, comme il m'a dit alors. Et puis, ça peut intéresser des gens. Je suis sûr qu'il existe un marché, même de niche. Ouais. Il avait la foi, mais les ventes n'ont jamais vraiment décollé. Les trois premiers bouquins qui sortirent de sa maison étaient les siens. Je fus son premier auteur. Il y en a eu d'autres après, des gens du coin, des bons trucs, vous savez, mais il n'y avait pas de place pour des gens comme nous. En tout cas, pas sous les feux de la rampe. Fallait se contenter des réverbères, et encore. À ce moment-là, je l'ai quitté un instant et ramené mes autres livres sur la table. Je les sentais impatients de la suite de mon histoire, mais comme je connais un peu le métier de journaliste, vu que j'ai travaillé un temps dans un journal de la presse quotidienne, je savais aussi qu'ils avaient besoin de biscuits. Je ne sais pas d'ailleurs si on utilise encore cette vieille expression. Alors oui, alors un jour, Jean m'a dit qu'il voulait un roman pour ados. Il m'a parlé du marché que constituaient les jeunes. Il avait la certitude contre le monde entier que les jeunes étaient les meilleurs lecteurs si on arrêtait de leur fournir des bouquins McDo, comme il disait. Il voulait de la qualité. Il m'a demandé si j'avais quelque chose sous la main. Lui-même avait un jour gagné un concours avec un roman pour ados. Une grosse maison l'avait édité, mais le suivi inexistant fit qu'il n'a pas beaucoup vendu. Et puis son texte suivant, ils l'ont refusé. Moi, j'avais écrit Le jour où je suis né quelque temps auparavant et je lui ai envoyé le manus. Oh, il a été enthousiasmé par le lieu. Le fait que les personnages principaux soient des filles, il misait beaucoup sur le lectorat féminin. Il avait trouvé ça drôle, m'avait parlé d'un auteur arabe qui avait traité d'un sujet similaire. Il estimait le texte universel. Rien que ça. J'ai trouvé ça flatteur. Et il a sorti le livre. Mon interlocutrice m'interrompit alors et me précisa qu'une femme avait contacté sa rédaction à la suite d'un reportage à la télé, où la ministre afghane avait été interviewée. C'était dans une émission très années 70, genre La Voix des Femmes, ou quelque chose dans ce genre. La femme disait en avoir entendu une version parlée sur une radio, en Isère, mais elle n'avait jamais trouvé le livre. « Oui, » répondis-je, « oui, bien sûr. À cette époque-là, je faisais une émission de radio, où Jean, mon éditeur, et Stéphane, un ami écrivain, venions lire nos textes. L'émission était appréciée. À cette époque, le livre n'avait pas encore paru. J'en avais fait une lecture. Et je me rappelle que c'était pendant la période des premiers confinements. J'avais normalement trois lectrices différentes pour ce texte. Je les avais choisies en fonction de la tessiture de leur voix. Une voix grave pour les deux premiers chapitres, un médium pour les deux suivants et une voix plus claire pour les deux derniers. Ça devait montrer l'évolution d'Eris, le personnage principal, cette jeune fille qu'on suit depuis sa naissance jusqu'à ses 17 ans. Et puis patatras, interdiction de bouger de chez soi et c'est moi qui ai fait toute la lecture. Je me resservis un café. En offris à mes interlocuteurs tout en ménageant mes effets, je retrouvais en discutant avec eux ce même plaisir que j'éprouvais en écrivant mes romans, ménager l'intrigue, et en les lisant devant mon micro, tenir l'auditeur en haleine. Et puis, lorsque le jour où je suis né est sorti, on a fait quelques salons, quelques foires de campagne, dans des petites villes aussi. J'en ai vendu quoi ? Une cinquantaine sans doute, guère plus. Jean avait tiré à 100, je ne sais pas où est passé le reste. Et puis, un an plus tard, il a été contacté par une association de réfugiés. Elle s'appelait... je ne me rappelle plus. Ils avaient un local du côté de Lyon. Leurs bénévoles venaient en aide à ceux qui avaient fui des pays en guerre. La présidente de l'asso était française, mais il y avait tout un tas de nationalités différentes, dont deux Afghanes. C'est l'une d'elles qui a contacté Jean. Elle avait lu mon roman qu'elle avait trouvé, abandonné sur un banc, et elle était enthousiaste. Elle l'avait fait lire à sa fille. Ça faisait 10 ans déjà qu'elle vivait en France, et la jeune fille, qui parlait parfaitement le français, en cherchait des exemplaires à offrir à des copines. Elle voulait savoir si Jean pouvait lui en envoyer. Devant une commande de 10 exemplaires, vous pensez bien qui s'est exécuté. Aucune librairie n'avait accepté de prendre nos livres, ni le mien, ni les autres. Des auteurs inconnus, ça intéressait personne. L'homme sortit alors son paquet de cigarettes et me demanda la permission de fumer. Sans même lui répondre, je lui ai tapé une clope et lui offris du feu en échange. Il apprécia le geste d'un sourire et m'invita à poursuivre. L'Afghane, elle s'appelait Fatima, si je me rappelle bien. Elle n'avait pas encore reçu son colis de livres qu'elle a recontacté Jean pour lui demander s'il accepterait de la rencontrer. Elle voulait lui proposer quelque chose, mais c'était trop long à expliquer par téléphone. Elle ferait le déplacement jusqu'à Chalon-sur-Saône. À cette première rencontre, je n'étais pas convié. Jean pensait que Fatima voulait qu'on en fasse une lecture publique. Ou bien, accepterait-il d'éditer des textes de migrants ? Il était enthousiaste, en tout cas. Vous pensez bien, sa maison était toute jeune. C'était l'occasion d'un bon coup de projecteur. D'autant que la ville où se trouvait l'association en ferait certainement la pub. Mais pas du tout. La journaliste m'interrompit alors et sortit un second portable de sa poche. La communication passait mal. Comme toujours, je lui conseillai de se déplacer jusqu'au Saule. Elle revint quelques minutes plus tard et me dit que sa rédaction s'inquiétait de savoir si on m'avait enfin trouvé. Que vous a demandé Fatima ? À moi ? Rien dans l'immédiat. Mais elle le proposa à Jean de faire de mon roman une traduction en pachto et une autre en farsi. Elle était d'ailleurs venue accompagnée d'une autre afghane de l'association. Les deux femmes ne parlaient pas la même langue, à part le français, qu'elles maîtrisaient plutôt bien, avec un accent chantant. Je vous parle de ça, c'était il y a, quoi, 20 ans au moins. Jean était ébloui, autant par la beauté de ces deux femmes que par l'idée qu'un de ces textes de sa maison puisse, sitôt, être traduit dans une langue étrangère. Il se voyait déjà à l'international. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. L'homme qui fumait clope sur clope semblait déjà connaître la fin de l'histoire. Et oui, les deux femmes n'avaient ni argent ni réseau, elles étaient venues, un peu penaudes, contacter Jean à la suite d'une visite chez l'avocate qui s'occupait de défendre les intérêts de leur association. Elles cherchaient à savoir si Jean accepterait de renoncer à ses droits d'éditeur dans la traduction qu'elle voulait faire de mon roman. Elles savaient aussi qu'il fallait que je donne mon accord et que je renonce, moi aussi, à mes droits. Jean n'avait pas de diffuseur. C'était heureux. Sans doute aurait-il fallu qu'elles obtiennent un accord là aussi. Et puis, elles annoncèrent qu'elles n'avaient pas un centime pour imprimer. L'asso voulait bien donner un peu, mais vous imaginez, l'urgence climatique pesait déjà lourd, les réfugiés arrivaient en masse, chassés par les guerres, les inondations, et la priorité, c'était pas de publier un livre. Je pris alors une longue inspiration et leur précisai que Jean était un humaniste. Sa maison d'édition, il ne comptait pas là-dessus pour faire des sous. Il avait un travail à côté, qu'il nourrissait convenablement. Je pris aussi la peine de leur dire que le projet des deux Afghanes était bien plus ambitieux que cela. Mes deux interlocuteurs semblaient le connaître en partie, mais il manquait des pièces à leur puzzle. Jean a dit oui tout de suite, puis il m'a appelé afin de fixer un second rendez-vous. Le coquin, il m'avait pas menti. Fatima et sa collègue, dont j'ai oublié le nom, étaient des femmes d'une grande beauté. Et le projet qu'elles portaient était si délirant, si unique, si impossible à mener, que j'acceptais avec enthousiasme. Une fois ces deux conditions levées, restait le problème de l'impression. Éditer un livre à 10 000 exemplaires, c'était pas bon marché. Mes deux interlocuteurs me regardèrent, ébahis. Puis ils prirent un petit sourire qui me montra qu'ils en savaient plus. La journaliste se tourna alors vers moi et me confia qu'au bas mot, ce furent 100 000 exemplaires qui furent tirés de mon livre. J'ai du mal à masquer ma surprise. Pour les 10 000, Jean était dans le coup, je le savais bien puisque j'étais venu avec lui à l'imprimerie. Mais pour tous les autres tirages, je leur dis qu'à coup sûr, ils n'avaient jamais été mis au courant. 100 000, dites-vous ? Je suis dubitatif. En tout cas, le jour où Fatima nous a dit qu'elle n'avait pas d'argent pour imprimer le livre, Jean s'est mis en contact avec son imprimeur. C'était un vieux monsieur, très sympa, et qui venait juste de remettre les clés de son affaire dans les mains de sa fille. Vous voyez, cette histoire passe constamment par les femmes. Et lorsque nous nous sommes rendus tous les quatre à l'imprimerie, la fille en question, Valérie, qui avait toujours bossé avec son père et qui connaissait le métier, a été enthousiaste. Elle avait tout un stock de papier qui avait des défauts, des trucs invisibles pour le novice, mais qu'elle ne pouvait pas utiliser pour sa clientèle. Le fournisseur devait venir les récupérer depuis plus de 3 ans, sans doute avait-il oublié. Elle l'offrait gracieusement, et offrait l'encre aussi, mais ne pouvait pas garantir de délai, vu qu'elle était débordée. Fatima et son amie se sont mises à la tâche pour la traduction. Elles se sont fait aider aussi, je crois, mais c'est un roman pour ados, c'était assez simple à traduire. Elles ont juste corrigé quelques invraisemblances de ma part, vous pensez bien, j'avais jamais mis les pieds à Kaboul. Et puis, 10 mois plus tard, les livres étaient prêts. Mes interlocuteurs étaient pendus à mes lèvres. Il ne leur manquait que quelques éléments qu'ils ignoraient pour reconstituer la fin de l'histoire. Bref, le jour dit, Valérie a prévenu Jean que les livres étaient en carton et qu'il fallait venir les chercher au plus vite. On a emprunté le camion d'un voisin pour transporter tout ça et nous sommes allés nous-mêmes les déposer dans l'entrepôt de l'association, en banlieue de Lyon. Pendant le trajet, on pensait naïvement que le livre serait en vente dans toutes les bonnes librairies de Kaboul et pourquoi pas au Pakistan aussi, et jusqu'en Inde. Ce qu'on ne savait pas et que Fatima nous a appris en arrivant, c'est que de vente, il n'y aurait pas. Les livres allaient partir, conditionné au milieu d'autres colis, de manière anonyme et discrète, dans des conteneurs différents, grâce à un ami qui connaissait quelqu'un qui connaissait, etc. Ils arriveraient dans un port, sans doute en Iran, où ils seraient acheminés par camion, bien cachés, jusqu'à Kaboul. Là-bas, des membres d'un réseau qu'elle connaissait allaient réceptionner puis dissimuler les livres avant de les distribuer aux jeunes filles des écoles clandestines de la ville. Les professeurs serviraient de relais. Avec Jean, on vivait là une sacrée aventure. Savoir qu'on contribuait à l'éducation des jeunes Afghanes et qu'on ne saurait jamais rien, ni de lui ni de moi, était particulièrement excitant. Fatima nous montra d'ailleurs un exemplaire. Il n'y avait aucune mention de l'éditeur et du pays d'origine. Pas de code, pas de chiffres, rien. Seul le titre était identique. Et mon nom aussi, qui avait été traduit et qui prouvait une provenance française. Mais bon, vu comme j'étais connu... Mais il ne fallait pas, si ces livres venaient à tomber entre les mains des talibans, qu'on puisse remonter jusqu'à la source. La suite de cette histoire, ce sont mes interlocuteurs qui me l'ont racontée. On ne sut jamais que Fatima avait noué des liens d'amitié solides avec Valérie, l'imprimeuse, au point que 90 000 exemplaires furent imprimés par la suite. Sans doute avait-elle peur d'abuser de la gentillesse de Jean. Fatima avait grandi en jouant avec les lignes, se cacher, dissimuler, c'était un peu sa vie. Elle avait erré pendant 10 mois sur les routes avant d'arriver en France. Tout juste appris-je aux deux journalistes qu'elle nous appela quelques semaines plus tard pour nous remercier de tous nos efforts et nous dire que les livres avaient bien été distribués. Et puis, plus de nouvelles. Le jour où je suis né, je ne fus pas la dernière à crier, fut donc un best-seller en Afghanistan. Le seul bouquin lu 100 000 fois, voire plus, et qui ne fut jamais vendu nulle part. La ministre afghane de la Culture l'avait elle-même reçu de sa sœur aînée, qui le tenait d'une copine qui elle-même l'avait récupéré je ne sais où. Son exemplaire était usé jusqu'à la corde. Elle l'avait apporté pour le montrer à son homologue français, qui fut des plus surpris. C'était lui qui avait mis la presse sur le coup. La ministre afghane cherchait à savoir qui pouvait bien être l'auteur de ce roman que des centaines de milliers de jeunes filles avaient lu là-bas et dont la vie de l'héroïne était devenue un exemple, presque un mythe. Eris, cette anonyme de Kaboul qui se bat pour devenir ce qu'elle est, une fille.